Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Cette semaine, c'est un roman qui est au sommaire de Mémoire vive, celui d'un auteur dont on disait il y a peu qu'il était l'auteur d'un seul livre. Un romancier qui est mort en 2006 et dont un livre posthume, L'étoile du matin, est paru en 2009. Et qui paraît, ces jours-ci, en livre de poche. André Schwarzbart, on s'en souvient, a connu un succès immense en 1959 lors de la publication de son premier roman, Le dernier des justes, qui a remporté le prix Goncourt et a été vendu à plus d'un million d'exemplaires. Mais ce livre déclencha aussi de vives polémiques. On s'attaque à l'auteur, on l'accuse de plagiat, on dénonce des erreurs historiques et des approximations religieuses. Certains vont même jusqu'à dire que la vision qu'il donne des juifs est une sorte d'appel à les persécuter. Blanchi de ces accusations, son deuxième et son troisième roman ont peu de succès. Blessé, il part définitivement s'installer en Guadeloupe et décide de ne plus publier. Ce livre posthume qui vient de sortir en livre de poche aux éditions du Seuil est donc la preuve que André Schwarzbart a continué d'écrire et à écrire sur l'histoire des juifs et de la Shoah. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Francine Kaufmann, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur à l'université Bar-Ilan, vous avez consacré votre thèse ainsi que de nombreux articles à André Schwarzbart, avec qui vous avez d'ailleurs régulièrement correspondu. Pour commencer, j'aimerais qu'on se penche un peu sur l'histoire de cet auteur. Il est donc né d'une famille émigrée de Pologne en 1928, d'un père qui voulait devenir rabbin. Il a vécu sa petite enfance dans le quartier juif de Metz. Quelle a été sa jeunesse ?
Je pense qu'il a eu une jeunesse relativement difficile du fait que ses parents ne se sont pas bien intégrés dans la ville de Metz. Bien, il vivait dans le quartier juif, un quartier qui parlait yiddish, où tout le monde avait un peu la même histoire, mais c'était vraiment le quartier pauvre. Pour ceux qui connaissent Metz, c'est en fait entre les bras de la Moselle, sur une sorte de petit îlot face à la grande synagogue, dans une misère très très grave. Vraiment, André était parfois obligé de manquer l'école pour accompagner son père travailler sur les marchés où il vendait des bas. Vous savez que beaucoup de juifs immigrés n'ont pas pu trouver de travail en s'installant et souvent étaient colporteurs. Donc cet enfant voit son père qui, en Pologne, avait tout de même une éducation. Il faisait partie des espoirs de la communauté et puis arrivé en France... un petit peu de déchéance presque. Et je crois que ça l'a beaucoup marqué. Mais il avait une grande admiration pour ce père qui racontait des histoires chassidiques, qui connaissait bien la tradition et qui était très tendre. La famille était relativement nombreuse et André allait à l'école, c'est le seul endroit où il parlait français, parce que dans la rue, on parlait yiddish. Et à 9 ans, la guerre éclate, et comme tous les Alsaciens lorrains, ça c'est pas spécifique aux Juifs, toute la région est évacuée, et en fait, la famille se retrouve dans l'île d'Oléron. Et tout petit, André devient mousse sur un bateau, il fallait vivre et gagner sa vie. Et puis, très peu de temps après, les policiers français, en fait, viennent arrêter son père qui avait été naturalisé, mais étant né en Pologne et avec Vichy, il s'est retrouvé étranger en France. Et le frère aîné était dans la même situation. Donc le père et le frère sont arrêtés. Quelques mois après, la mère, qui venait d'avoir un bébé, donc né français, mais encore une fois, à cause des lois de Vichy, il était considéré comme apatride puisqu'il était né après le statut des Juifs. Et la mère, le bébé, sont aussi déportés avec une tante. Enfin, André ne sait pas à l'époque que le fait d'être arrêté et interné à Drancy, c'est la déportation. Après la guerre, il attendra longtemps en vain. Et il se rendra compte à 14 ans qu'il est devenu le père de ses frères et de sa petite sœur. D'ailleurs, sa sœur, c'est lui qui la sauve parce qu'elle a 4 ans. Elle est arrêtée avec sa mère et le bébé. Mais André a le réflexe de courir à la maison chercher les papiers pour prouver qu'elle est née française avant le statut des Juifs. Et il arrive, grâce à des gens de la Croix-Rouge, à la faire sortir du train d'internement.
Oui, donc on voit que déjà André Schwarzbart a une personnalité assez forte, c'est quelqu'un qui fait preuve d'esprit, de décision. Donc on sait que très jeune, André Schwarzbart fait de la résistance, alors on ne le sait pas forcément toujours.
Il maquille son passeport, ses cartes d'identité, pardon, pour se faire passer pour beaucoup plus âgé qu'il n'est, parce qu'en fait il a à peine 15 ans et demi quand il rentre dans la résistance.
Et donc oui, voilà, il fait de la résistance dans les rangs communistes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de cette période de sa vie qu'on connaît très peu ?
Oui, il est finalement pris en sympathie par des chefs de la résistance du sud de la France et il les accompagne au cours de leur périple et à un certain moment, ils sont tous arrêtés, emprisonnés et on ne sait pas l'âge d'André, mais il est torturé comme les autres. Cette séance de torture est un souvenir traumatisant dont il ne parlera jamais, mais qu'on va retrouver dans le roman Le Dernier des Justes, où Ernie est torturé à Drancy. Et en fait, c'est par la suite, par recoupement, que je me suis rendu compte que c'est Schwarzbart lui-même qui avait vécu cette torture. Heureusement, les résistants sont délivrés. Alors là, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu une intervention de leurs camarades ou un miracle qui a fait qu'ils ont pu sortir de prison. En tout cas, André poursuit sa résistance et au moment de la libération, il entre dans l'armée française parce qu'il veut combattre en tant que Français dans l'armée. Là encore, il utilise ses papiers maquillés parce qu'il est beaucoup trop jeune pour être mobilisé. Et il se rend compte au bout d'un certain temps qu'on le met dans une compagnie juive. Et plus tard, il se dit « on ne veut pas que les Juifs combattent pour la France en tant que Juifs ». Donc on a laissé les compagnies, j'allais dire, sur une voie de garage. Et il fait quelque chose d'incroyable. Il déserte de la compagnie juive pour entrer dans une compagnie normale de fusiliers mitrailleurs. Et là, il va vraiment combattre. Je crois qu'il a la rage au ventre. Il a vu toute sa famille arrachée, ses amis, ses voisins. Et donc, il combat. Il est même blessé. D'ailleurs, grâce, j'allais dire, à cette blessure, il a le statut d'ancien combattant. Et c'est grâce à ce statut qu'il aura tout de suite, à la libération et après la guerre, une bourse d'ancien combattant qui va lui permettre de commencer le soir des études en externe, parce qu'il travaille dans la journée. Et il va finir par avoir le baccalauréat, rentrer à la Sorbonne. Alors tout ça, on en parle très peu, parce qu'on parle toujours d'André Schwarzbart comme un autodidacte qui n'y connaît rien. En fait, c'est quelqu'un qui, très tôt, a envie d'apprendre, donc il est bachelier, il fait un certificat de morale et sociologie à la Sorbonne, il le termine, mais il se rend compte que les étudiants à la Sorbonne sont des petits bourgeois qui cherchent carrière et pas du tout ce que lui cherche, c'est-à-dire des réponses existentielles dans un département de philosophie, sociologie, pour comprendre comment le monde peut aller jusqu'à la Shoah. D'ailleurs, Wiesel a un peu le même parcours. Wiesel rentre à la Sorbonne aussi pour essayer de comprendre la Shoah et se rend compte de la même manière que tout ce qui l'entoure est fait d'un autre univers, c'est une autre planète, ces petits bourgeois parisiens qui vont à la Sorbonne à la Libération. Donc André reste en fait ouvrier, il travaille dans des ateliers de couture, de métallurgie, enfin un peu de tout. Et il découvre la littérature. Alors là, récemment, il y a eu un blog de Pierre Assouline qui citait Jean Lacouture, disant « Quelqu'un qui découvre la littérature et qui croit que Crime et châtiment est un roman policier ne peut pas avoir écrit tout seul Le Dernier des Justes. » Alors, pour les lecteurs du blog de Pierre Assouline, je tiens à dire que c'est André Schwarzbart lui-même qui a raconté qu'il a découvert Crime et châtiment dans une bibliothèque pour se désennuyer. C'était tout de suite après la guerre. Il n'avait pas pu aller à l'école. Il commençait tout juste à apprendre et à reconquérir la littérature. Mais c'était 11 ans avant qu'il ne livre Le Dernier des Justes. Il a eu le temps, entre-temps, d'apprendre.
Et puis, il n'y a jamais de honte à ne pas savoir quelque chose.
Oui, mais quand on ridiculise dans la presse un auteur en disant « il ne peut pas avoir écrit tout seul » et c'est certainement son éditeur qui a écrit le livre pour lui, moi, ça me fait mal au cœur.
Donc effectivement, cette lecture de Dostoïevski est pour lui une révélation. Et on retrouve d'ailleurs dans son projet de roman, dans Le Dernier des Justes, ce tiraillement de l'humanité entre la quête de spiritualité et l'attraction des hommes pour le mal. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement du projet du Dernier des Justes? Alors assez brièvement, nous résumer finalement ce projet qu'avait André Schwarzbart d'essayer d'expliquer, de remonter aux origines de ce qui a pu amener à la Shoah.
Alors, c'est difficile d'être bref, mais je vais essayer. En fait, je crois que ce qui est spécifique chez André Schwarzbart, contrairement à ce qu'on a appelé a posteriori la littérature de la Shoah, c'est qu'il n'a pas essayé de raconter la Shoah ou de raconter les difficultés d'intégration d'un survivant dans un monde qui est coupable de la Shoah. Il essaye de comprendre les racines, comment cela a été possible. Et donc, pour lui, les dernières pages de son roman montrent le camp de concentration et la mort dans les chambres à gaz, mais c'est vraiment les dernières pages. Le livre, au contraire, part à la recherche des racines, va remonter peu à peu au moment où l'antisémitisme en Occident devient meurtrier, c'est-à-dire les croisades. Au moment des croisades, les chevaliers partent vers Jérusalem en exterminant sur leur passage les communautés juives. Et à partir de là, l'antisémitisme va causer des morts de communautés entières, soit sur les bûchers de l'Inquisition, soit dans des pogroms. Et ce que fait André Schwarzbart au cours d'une quête qui va finalement durer 8 ans jusqu'à la dernière version du Dernier des Justes, qui est le livre définitif, c'est la 5e version, il y a beaucoup de tentatives avant, c'est d'essayer de créer deux fils. Un fil qui va être le fil historique, c'est-à-dire l'histoire de l'antisémitisme, et chacun des héros de la famille mythique qu'il va créer, la famille des Lévi, qu'il fait appartenir à une sorte de caste qui sont les 36 justes. C'est une légende qu'on trouve déjà ébauchée dans le Talmud, qui se développe plus tard dans la littérature juive et surtout se développe dans le chassidisme. Et son papa avait beaucoup raconté à Schwarzbart des histoires des 36 justes, des Lamed Vavnik. Donc une famille de Lamed Vavnik, depuis les croisades jusqu'à Auschwitz, va vivre à chaque époque l'un des temps forts, si on peut employer cette expression horrible, de l'antisémitisme en Occident. Et puis le second fil est un fil spirituel, c'est-à-dire que de l'extérieur on voit les persécutions, mais de l'intérieur, comment les Juifs vivent dans leur cœur ces persécutions, ils donnent à ces persécutions un sens mystique, qui est non pas de prendre sur eux les souffrances pour sauver le monde, comme dans le mythe chrétien de Jésus qui sauve le monde en prenant les péchés du monde sur lui, non pas du tout. Le Lamed Vav de Schwarzbart est quelqu'un qui est capable de compassion humaine, qui prend la souffrance de ses frères dans son cœur et qui, par le partage de la souffrance et par le refus de se séparer de l'histoire de ses frères, d'être solidaire, ce qui est tout à fait un thème juif, réussit en fait à adoucir la brutalité et la cruauté de ce monde.
Alors ce qui est frappant, et ce qu'il faut peut-être malgré tout évoquer avant de parler de ce livre posthume de André Schwarzbart, c'est qu'effectivement, il le dit lui-même dans des avant-propos, dans des interviews, qu'il a choisi de se concentrer sur la figure du juif qui n'est pas un héros résistant, alors que lui a été un résistant, mais qui résiste par sa force spirituelle, par sa capacité à subir. Et finalement, c'est ce qui lui sera reproché, puisqu'il ne faut pas oublier également qu'il écrit à un moment en 59, à un moment où on ne parle pas encore de la spécificité du sort réservé aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et où le film de Shoah, Lanzmann, qui pour nous semble une évidence aujourd'hui, n'est pas encore sorti, dans un contexte qui n'est pas du tout prêt à entendre ça, et où on axe tout sur l'aspect résistant de la déportation.
C'est exactement cela. C'est ça le drame de Schwarzbart, c'est qu'il a été un précurseur. Il a écrit beaucoup trop tôt. Si Le Dernier des Justes sortait aujourd'hui, bon, peut-être ne serait-il pas remarqué au sein du flot de la littérature de la Shoah. Mais à l'époque où il écrit, effectivement, il y a Israël avec l'armée israélienne qui est considérée comme héroïque. En 59, il n'y a pas encore eu 67 et les territoires. Il écrit au moment où on valorise surtout les héros du ghetto de Varsovie. Et lui, qui a été résistant et qui, je ne dis pas qu'il cache, mais enfin, il parle très peu de cette période, il a l'impression que ce qui prévaut à cette époque, c'est la honte. C'est-à-dire qu'on dit aux Juifs, vos pères, et donc son propre père, sa mère et son frère, ses frères et tout, sont morts comme des moutons qu'on emmène à l'abattoir et ils se sont laissés assassiner. Et lui, il veut montrer que dans cette soi-disant passivité, il y a une dignité énorme. Parce que finalement, il y a tellement peu de gens qui se sont révoltés contre les nazis, il ne s'agit pas seulement des Juifs, il y a eu tellement de camps de concentration avec des gens qui avaient même été des combattants et qui ne se sont pas révoltés. Donc ce qu'il veut montrer, c'est que d'abord, on pouvait très difficilement se révolter, et deuxièmement, il y avait une dignité profonde dans le comportement de ces Juifs qui, n'ayant pas le choix, essayaient au contraire de rester humains. On essayait de les bestialiser, de les diaboliser. Au sein de cette planète Auschwitz, ces gens étaient capables de rester solidaires, humains, de se consoler les uns les autres. Et c'est ça qu'il veut montrer.
Alors, il est donc très blessé par l'accueil qui est réservé. Alors, le public accueille extrêmement bien son livre, mais certaines personnes, alors il y a beaucoup aussi de raisons éditoriales, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais en tout cas, toutes les accusations ensuite sont levées. Donc, c'est malgré tout une blessure dont il ne se remettra jamais. Il finira donc par s'installer effectivement à l'étranger, en Guadeloupe, avec sa femme. Et il décide de ne plus publier, mais il n'arrête jamais d'écrire. Et le livre qui sort aujourd'hui est un peu c'est la preuve qu'il n'arrête jamais d'écrire.
Il n'arrête jamais d'écrire. D'abord, au moment où sort le roman suivant que tout le monde attendait et qu'il a différé sans arrêt, c'est en 67, ça s'appelle « Le plate-port aux bananes vertes ». Il l'a co-signé avec son épouse Simone Schwarzbach. Beaucoup de gens sont déçus. D'abord, c'est un roman très difficile qui se passe dans un asile de vieillards avec une vieille... une noire descendante d'esclaves, mais aussi d'une héroïne, la mulâtresse Solitude. Et ce roman est en fait une partie d'un cycle de 7 volumes, et Schwarzbach attend que le cycle entier soit pratiquement prêt. Et donc, il publie le premier volume quand les 6 autres sont déjà prêts. Et il en parle à la presse. Ce cycle est en fait une sorte de... disons, reflet inversé du dernier des justes. C'est-à-dire que, en tant que juif capable de compassion humaine, il veut montrer que la souffrance ouvre à la souffrance des autres. Et donc, et il faut le savoir, c'est dès 1955, il n'a pas encore du tout terminé le dernier des justes, qu'il se dit « ma prochaine œuvre », parce qu'il sait qu'il sera écrivain, sera un livre consacré à la souffrance du peuple noir et des esclaves. Il raconte d'ailleurs que l'un des derniers souvenirs avec sa famille réunie, c'est un céder de Pessah, où justement on parle de l'esclavage d'Égypte, et il est très touché par ce monde de l'esclavage. Donc il raconte l'histoire des esclaves noirs, et c'est un petit peu, on les déporte d'Afrique, et on peut retrouver une sorte de récit parallèle. Il ne compare pas, les souffrances ne sont pas comparables, mais... la souffrance de l'un ouvre à la souffrance de l'autre. Et tout cela aussi n'a pas été compris. On a dit que c'était peut-être sa femme qui avait tout écrit. Sa femme me dit qu'on a dit que quand elle a écrit ses propres romans, on a dit que c'était son mari qui avait tout écrit. Alors, je veux dire, il y a eu beaucoup de méchanceté autour de ce couple. Et ce que Schwarzbach voulait faire comme dernier volume du cycle La mulâtresse Solitude, c'était un roman où le héros, l'héroïne descendante d'une héroïne comme les Lamed Vav, mais c'est une noire qui, en fait, a participé à une révolte qui est historique contre l'armée française, qui, après l'affranchissement des esclaves, avait rétabli l'esclavage, et il y a eu révolte des Noirs avec une héroïne, la mulâtresse Solitude, dont seules 3 lignes dans un roman évoquent l'histoire. Et Schwarzbach a réinventé cette histoire dans son second roman, que là il signe seul, qui porte le nom du cycle entier, La mulâtresse Solitude, qui paraît en 72. Mais pendant tout ce temps, le rêve de Schwarzbach est que la descendante de la mulâtresse et le descendant des Lamed Vav, qui est le frère rescapé d'Ernie Lévy, Moritz Lévy, se rencontrent, s'aiment, et il aurait dû y avoir un roman supplémentaire qui permettrait à Schwarzbach de dépasser le Kaddish impossible, parce que finalement son grand thème, c'est comment faire un Kaddish, c'est d'ailleurs la dernière page du dernier des Justes, un Kaddish, mais une sorte de Kaddish de révolte, et louer Auschwitz, soit Maïdanek, l'Éternel. C'est assez horrible. D'ailleurs, ce Kaddish se trouve sur les murs du nouveau musée de Yad Vashem. Et ce Kaddish impossible, il veut le dépasser pour réussir à écrire un livre qui serait non pas un apaisement, non pas une consolation, mais une sorte de possibilité de vivre dans le monde d'après Auschwitz, qui est le nouveau roman, L'Étoile du matin, qui n'a pas paru.
Et donc, si on se penche effectivement sur ce dernier roman, ce livre posthume, L'Étoile du matin, on remarque que comme dans Le dernier des justes, c'est un livre qui évoque la traversée des siècles, notamment de 2 siècles, d'une famille polonaise juive, donc l'histoire d'une lignée, elle aussi traversée par les persécutions. Mais la grande différence, notamment dans ce livre, le héros Haïm Schuster est un résistant, justement, un de ces combattants du ghetto de Varsovie. Est-ce que vous pensez que ce livre, Francine Kaufmann, était aussi une réponse aux critiques qui étaient faites au dernier des justes?
C'est difficile à dire. Aujourd'hui, Schwarzbach est morte, on ne peut pas l'interroger. Mais j'ai correspondu avec lui au moment de la sortie du livre que j'ai consacré au dernier des justes. Et à cette occasion, c'était en 85, c'était juste au moment où allait sortir mon livre, il m'a parlé du livre qu'il était en train d'écrire et qui semble précisément être L'Étoile du matin, ou en tout cas la structure de L'Étoile du matin. Ce qu'il essayait de faire, c'était... de prononcer ce Kaddish, de montrer qu'il y a quand même un espoir. Il savait qu'il y avait un grand désespoir dans le fait même que le livre s'appelle « Le dernier des justes », comme si après il n'y avait plus de destin juif possible, comme si la Shoah avait définitivement effacé de la carte toute la civilisation juive. D'ailleurs, dans la correspondance que j'ai eue et dans des conversations ou face à face ou au téléphone, il m'a dit que vraiment pendant quelques décennies, il était convaincu que son peuple juif à lui d'Europe de l'Est, il y avait des survivants, mais il n'y avait plus de civilisation. Il avait l'impression que tout le monde était mort, ou en tout cas que c'était un petit peu des fantômes survivants. Et peu à peu, il a pris conscience que tout de même, si la vie continuait, Israël, il avait une relation à la fois passionnelle avec ce pays où vivait son peuple, et en même temps critique pour la politique du gouvernement, parce que justement, lui, ce qu'il voulait, c'était un juif pur, un juif aux mains propres, et quand on fait de la politique, on est obligé parfois de se salir les mains. Et il avait du mal avec la survie du peuple juif et trouver un héros qui incarne vraiment à la fois son idéal et quand même la réalité. Donc le roman qu'il a écrit, mais qu'il n'a pas publié et qui est publié à titre posthume, il ne l'a pas publié parce qu'il pensait que... là encore, c'était un échec. Et Simon Schwarzbart a pris des notes, c'est-à-dire il lui dictait à la fin, il pouvait difficilement écrire, il avait eu plusieurs incidents cardiaques, il lui a dicté quelques chapitres, et justement les chapitres qui sont à la fin de l'Étoile du Matin, et qui là semblent être vraiment une sorte d'apaisement de sa conscience. Il raconte d'ailleurs dans l'Étoile du Matin, à un moment, le héros qui est descendant de cette famille polonaise dont vous parlez de Juste aussi, semble tout à coup devenir lui. C'est-à-dire que c'est un auteur, un écrivain qui est blessé par les accusations. Enfin, c'est vraiment lui. Et lui réussit à retourner à Auschwitz, ce qu'il n'a pas fait dans la réalité, et à avoir un enfant avec une femme qui porte le prénom symbolique de Sarah. Vous savez peut-être que sous les nazis, toutes les femmes juives avaient comme sur leur carte d'identité le prénom Sarah et tous les hommes Israël. Et donc il a un enfant avec cette Sarah et il peut enfin prononcer un kaddish à la dernière page. Et je pense que Simon Schwarzbart s'est senti autorisé à publier le livre que Schwarzbart considérait comme étant un échec et inachevé parce qu'il l'avait dépassé dans ses dernières années et parce qu'elle a retrouvé des notes dans lesquelles il parlait d'une une historienne de l'an 3000 qui s'appelle Lynn Marie. Et il se trouve que Simone Schwarzbart a trois prénoms. Elle s'appelle Lynn Marie Simone Brumand, épouse Schwarzbart. Et donc, c'était un peu comme une sorte de testament posthume. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que alors que Le Dernier des Justes commence par le fait que l'histoire du héros devrait commencer dans la seconde moitié du XXe siècle, mais doit remonter au début de l'histoire occidentale, comme les étoiles laissent leur lumière, même lorsqu'elles sont mortes, on en perçoit encore la lumière 2000 ans après, eh bien l'Étoile du Matin commence en l'an 3000, c'est-à-dire que pour Le Dernier des Justes, on a la lumière des étoiles mortes, et pour l'Étoile du Matin, on a la lumière de demain qui se projette, au contraire, on part de l'avenir pour revenir encore une fois au passé.
Merci encore Francine Kaufmann. Donc je voulais quand même souligner cette chose très émouvante, c'est que finalement la femme d'André Schwarzbart expliquait que cette incapacité qu'avait André Schwarzbart cette incapacité qu'il avait à finir ses livres était aussi une façon de rester en contact avec les siens, de ne pas trahir, de ne pas conclure, de ne pas arrêter le dialogue qu'il avait avec sa famille disparue.
S'il avait mis le mot fin, il aurait eu l'impression qu'il en avait fini avec l'histoire et avec la mémoire des siens. Et il n'arrivait pas à terminer parce qu'il ne voulait pas se séparer des siens.
Voilà, donc vous avez conclu. Merci encore. Je rappelle donc que votre livre consacré à André Schwarzbart est publié aux éditions Klingsic. Je ne sais pas si on peut
Méridien
encore
Klingsic.
Le trouver. Méridien Klingsic. Et que le dernier roman donc d'André Schwarzbart, L'Étoile du Matin, vient de sortir en livre de poche aux éditions du Seuil. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet, www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.